journal Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, moins de normes, moins de recours. Le gouvernement veut accélérer la construction de logements pour faire baisser les loyers en France. Il dévoile aujourd'hui une série de mesures, on verra ce que ça pourrait changer. La démocratie, oui, mais ce n'est pas la rue. Emmanuel Macron sur CNN cette nuit. Le message s'adresse aux opposants à la réforme du code du travail qui s'apprête à redescendre dans les rues dès demain. À l'étranger, un bilan qui monte d'heure en heure au Mexique après un nouveau tremblement de terre. Au moins 220 morts désormais. Et puis nous irons en Guadeloupe après le passage de l'ouragan Maria. L'île découvre les dégâts causés par le vent et par la pluie. Dans 20 minutes, comment accélérer la fabrique des lois? On en parle, Nicolas, avec votre invité. Vous recevez le président de l'Assemblée nationale.
François de Rugy au micro d'Inter dans quelques instants. Vos questions au 01 45 24 7000 via le Facebook Live de France Inter et Twitter avec le mot-clé le 79 Inter.
Dans ce journal également, retour à Calais un an après la construction du mur anti-migrants. Attention aux bougies parfumées et aux encens pour vos poumons. Et puis une histoire de divorce, mais surtout un très grand film aujourd'hui au cinéma.
France Inter.
Trop petit ou trop cher, c'est la préoccupation numéro un de millions de Français. Le gouvernement va donc lever le voile aujourd'hui sur la future loi logement. On en connaît l'aspect le plus polémique, la baisse annoncée des APL le mois prochain. Mais c'est tout le secteur que le gouvernement veut dynamiser. Avec un mot d'ordre, Maxime Debs, construire plus en dépensant moins.
Comme n'importe quel marché, l'immobilier répond à la loi de l'offre et de la demande. Pour faire baisser les loyers, l'une des solutions est donc de construire davantage et plus vite. Pour ça, Emmanuel Macron veut réduire les normes imposées aux promoteurs. Attention toutefois quand même à ne pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, prévient un expert à l'OFCE. Expert qui voit plutôt d'un bon œil, en revanche, la volonté du gouvernement de raccourcir les délais de recours déposés par les riverains qui ne veulent pas de nouveaux bâtiments à leurs fenêtres. Ces recours paralysent aujourd'hui de nombreux chantiers, parfois de manière abusive, parfois tout de même pour des raisons légitimes d'environnement ou de cadre de vie. Là aussi, l'exécutif marche sur des œufs. En tout cas, le gouvernement veut mieux construire aux bons endroits, là où les besoins sont les plus forts. Très bien, selon notre expert, mais pour ça, les bonnes intentions ne suffiront pas. Des mesures fiscales importantes seront nécessaires pour inciter les propriétaires de terrains constructibles à céder leurs terres.
Et parmi les annonces attendues aujourd'hui, une réforme du prêt à taux zéro et du dispositif Pinel qui devrait être recentré sur les zones les plus tendues. 60 000 logements supplémentaires pour les étudiants et une mauvaise nouvelle pour les offices HLM. Le gouvernement veut leur imposer une baisse des loyers pour faire des économies sur le versement des APL, mais il redoute déjà d'être les grands perdants de la réforme. On nous fait les poches, dit même le président de la Fédération européenne du logement social, Cédric Van Stevendal.
C'est plus un coup de rabot, c'est un coup de sabot. On a 2 milliards à perdre et c'est pas 2 milliards juste une année. C'est chaque année que l'exercice va se renouveler puisque ces baisses de loyers qu'on va nous demander de les faire, on va les retrouver dans nos exercices financiers chaque année. Donc ce sont des sommes considérables qui vont nous empêcher de faire correctement notre travail. Ce que ça menace directement, c'est notre capacité à réinvestir. Et aujourd'hui, on parle de supprimer 80% de cette capacité d'investissement, soit dans la production de logements, soit dans la réhabilitation. C'est colossal.
Cédric Van Stevendal au micro de Jean Lémarie. Enfin, dernière annonce, cette fois pour les locataires des HLM. Leur situation sera désormais examinée tous les 6 ans avec à la clé une nouvelle proposition de logement en cas de changement de situation familiale ou financière. Une proposition qui, attention, n'aura rien d'obligatoire. Dossier à retrouver sur franceinter.fr.
8h04, voilà pour la réforme du logement. Mais le plat de résistance en ce moment, c'est bien le code du travail.
Avec déjà une nouvelle journée d'action dès demain du côté des opposants. Nouveau cortège, nouvelle grève. N'en attendez rien, leur répond à distance Emmanuel Macron. C'était cette nuit à New York, sur CNN et en anglais dans le texte.
I do believe in democracy. And democracy is not in the street.
Je crois en la démocratie, mais la démocratie ce n'est pas la rue.
So I'm very
Il y a une élection, je suis au clair avec ça. Au tout début d'un mandat, vous avez un capital politique, vous devez vous en servir. Peu m'importe d'être impopulaire, mon pays doit être réformé.
Voilà, la démocratie ce n'est pas la rue, traduction signée Philippe Lefébure. Et pourtant, un nouveau feu vient de passer à l'orange pour le gouvernement avec la mise en garde signée des syndicats dits réformistes. Ils s'y mettent à 3 pour se faire entendre dans une lettre ouverte publiée hier. Les leaders de la CFDT, de la CFTC et de l'UNSA demandent au gouvernement de modifier la réforme du code du travail qualifiée de déséquilibrée. Il n'est pas trop tard, écrivent les signataires, car les décrets sont en cours de rédaction. Isabelle Raymond.
Dans cette tribune, les trois syndicats détaillent leurs motifs de mécontentement. Ils dénoncent l'assouplissement des conditions de licenciement, tout comme la réduction très probable des moyens alloués aux instances représentatives du personnel fusionné. Ils demandent au gouvernement de rectifier le tir, une façon aussi d'occuper le terrain à la veille de la journée d'action à l'appel de la CGT. La centrale, qui en décidant de partir seule, ne nous a pas laissé le choix, résume l'UNSA. Il fallait se rallier ou se taire. Ces syndicats, à commencer par la CFDT, se sentent aussi sans doute trahi par le gouvernement sur plusieurs sujets, la possibilité de se passer d'eux dans les petites entreprises ou encore l'augmentation des indemnités de licenciement finalement réduites au-delà de 10 ans d'ancienneté. Des organisations poussées par leur base, avec ici et là des fédérations de plus en plus contestataires, la CFDT Route organisait lundi des barrages filtrants quand l'UNSA Ferroviaire appelle à la grève demain.
Enfin, les perturbations devraient être limitées demain à la SNCF pour cette nouvelle journée d'action. Trafic normal pour les TGV et les Transiliens, dit la direction du groupe, et 8 trains sur 10 en moyenne pour les TER et les Intercités. Un coup de pouce cette année, mais rien l'année prochaine. Le gouvernement joue à la douche écossaise avec les retraités. On savait que leur pension de base serait réévaluée de 0,8% le 1er octobre, dans quelques jours, mais ce sera tout. Rien de plus à l'horizon. D'après le journal Les Échos, 2018 serait une année blanche pour les retraités. Seul le minimum vieillesse sera augmenté de 30 euros l'an prochain. Inter, 8h07, des immeubles qui tangue, d'autres qui s'effondrent. Scène de panique hier soir au Mexique. Deux semaines seulement après le dernier séisme, la terre a de nouveau tremblé, frappant plusieurs provinces ainsi que la capitale, Mexico. On compte au moins 224 morts dans un dernier bilan, mais ce bilan pourrait être bien plus lourd encore. À Mexico, une quarantaine de bâtiments au moins sont à terre, dont une école où 21 enfants ont perdu la vie. Les recherches se font de nuit, parfois à la pioche, pour retrouver les survivants, comme en témoigne la correspondante de France Inter à Mexico, Emmanuel Stills.
Je me trouve dans une rue où il y a un immeuble de plusieurs étages qui s'est effondré. Il y a des grands groupes de volontaires qui sont afflués de plusieurs endroits de la ville pour venir porter secours ici. Il y a presque trop de volontaires. Ceux qui organisent les secours, les militaires, les services de protection civile demandent aux gens de rentrer chez eux, d'aller chercher des pics et des pelles parce qu'on a besoin d'outils pour déblayer les décombres et pour essayer de retrouver les survivants. Il y a de plus en plus de volontaires, les services de secours ont presque des difficultés à accéder à cet endroit. Il y a évidemment une atmosphère très très étrange ce soir à Mexico avec beaucoup de gens qui sont partis, qui ont quitté la ville pour aller loger chez des membres de leur famille, chez des amis qui vivent un petit peu en dehors du centre, en dehors de la zone de risque. Et puis il y a aussi, comme je vous le disais, beaucoup de volontaires qui essaient de participer au secours et puis des familles qui simplement se sont installées dans la rue pour passer la nuit dans la rue parce qu'elles ont trop peur de rentrer chez elles, elles ont trop peur d'une réplique et puis dans certains cas parce que leur maison menace de s'écrouler.
Et pendant que la terre tremblait au Mexique, le ciel continuait de se déchaîner sur les Antilles. L'ouragan Maria balaye en ce moment les îles Vierges américaines. Avec ses vents violents et ses trompes d'eau, il est attendu sur Porto Rico. Mais avant cela, c'est en Guadeloupe qu'il a fait 2 morts, 2 disparus et de gros dégâts matériels. Mathieu Mondoloni.
Quelques heures après le passage de Maria, c'était toujours le déluge en Guadeloupe. Au Gosier, à quelques kilomètres au sud de Pointe-à-Pitre, on circule difficilement au milieu des arbres couchés et des éboulements de terrain.
Non, franchement, ça fait peur. Hein.
À l'abri sous le haut vent d'une terrasse de restaurant, Marie-Laure regarde la pluie tomber, encore sous le coup de l'émotion.
Sur la route, il y a tous les arbres qui sont par terre, les câbles VDF. Hein. Il y a même des gros rochers qui sont tombés. Ah ouais, mais c'est affreux. Hein.
Un peu plus loin, Philippe, emmitouflé dans un large ciré gris, est venu voir l'état de la marina.
Les bateaux sont encore à leur place, à part quelques petits dégâts, bien sûr. On a été à peu près épargné ici.
La pluie redouble de violence. Nous partons nous mettre à l'abri dans un restaurant où quelques habitués sont accoudés autour du bar et du patron, Maurice. Il leur raconte comment, pendant l'ouragan, il a dû sortir de chez lui.
J'ai un petit coup de fil vers 4h du matin. Une amie sur Gosier, c'est-à-dire à 10 km de mon habitation. Son toit s'est complètement arraché. Et il y avait donc 3 enfants, 14, 10 et 1 an et demi. Je les ai récupérés, je les ai ramenés chez moi et je les ai mis en sécurité.
Un verre à la main, chacun raconte, compare, commente les événements de la nuit dernière. Mais tous s'inquiètent surtout de la situation dans le sud de l'archipel, aux Saintes, à Marie-Galante ou à Basse-Terre, des régions frappées de plein fouet par l'ouragan Maria.
La Guadeloupe qui découvre les dégâts quand la Martinique, elle a été plutôt épargnée. On ne compte que 2 blessés légers. Enfin, sachez que la soirée de solidarité avec les Antilles hier soir sur France Inter et France 2 a permis de récolter 2 200 000 euros pour aider les sinistrés d'Irma, mais également de Maria. À vendre, hôtel particulier, 3000 mètres carrés dans un quartier chic à Paris pour cause de claque électorale. Le Parti Socialiste va mettre en vente son siège national rue de Solferino. Il espère en tirer de quoi renflouer ses caisses plombées par les derniers résultats électoraux.
De retour à Calais ce matin.
Il y a un an, sa construction avait fait couler beaucoup d'encre, alors nous sommes retournés au pied du mur anti-migrants édifié l'an dernier. 4 mètres de haut, le long de la rocade menant au port de Calais. Il était censé empêcher les migrants de monter à bord des camions partant vers l'Angleterre. Qu'en est-il aujourd'hui ? Reportage Sébastien Sabian.
Un imposant mur de béton qui donne à l'autoroute des allures de forteresse. Financé par le Royaume-Uni, il vise à empêcher les dougars, les barrages improvisés par les migrants qui veulent monter dans les poids lourds. Loane Toron de l'association L'Auberge des Migrants.
En fait, le mur fait 1 km de long à peu près. Donc au lieu de faire les dougars à son relais, ils les font ailleurs. Et c'est très symbolique quand même de se dire que voilà, en France, on est encore au stade où on met des murs pour bloquer des gens.
Alors les migrants se sont déplacés en amont du mur. Ils vivent dans les bois, sur des ronds-points, dans une zone industrielle. Alexander est érythréen, il tente de passer en Angleterre depuis 6 mois.
On ne peut plus entrer sur le port à pied, il y a ce grand mur. Ils ont aussi des caméras. Si on reste ici, on peut trouver de gros camions. On se cache et on tente de passer la frontière.
Ils ciblent notamment les camions de Jean-Pierre Devigne, patron d'une entreprise de transport à 300 mètres du mur.
J'ai dû installer des barbelés. On n'a plus d'envahissement de rocade ni d'autoroute, mais on a des petits groupes qui essayent de s'introduire dans nos véhicules.
Parmi les partisans du mur, le PDG du port de Calais, Jean-Marc Puissosseau, il se félicite de voir le problème repoussé un peu plus loin.
Ça rejette les migrants, effectivement, à un endroit qui s'appelle le rond-point Marcel Doré. Et là, il y a de la police pour surveiller et voir que les migrants n'aillent pas sur l'autoroute. Et c'est pour ça que nous avons gagné des parts de marché.
L'an dernier, la maire de Calais avait tenté sans succès de faire suspendre la construction du mur devant la justice. Elle refuse aujourd'hui de s'exprimer sur le sujet. À Calais, Sébastien Sabiron, France Inter.
À l'étranger, en bref, une nouvelle arrestation après l'attentat dans le métro de Londres vendredi dernier. Un troisième suspect a été interpellé, cette fois au Pays de Galles. 20 milliards d'euros pour solder un divorce, c'est la somme que le Royaume-Uni serait prêt à payer à l'Europe dans le cadre des négociations sur le Brexit. Information du Financial Times, le chiffre devrait être confirmé après-demain par la Première ministre Theresa May, mais il est largement inférieur aux 60 à 100 milliards d'euros évoqués jusqu'ici à Bruxelles.
Et maintenant, respirez un grand coup.
C'est la journée nationale de la qualité de l'air. Alors évidemment, on pense aussitôt à la pollution atmosphérique, les voitures, l'industrie, l'agriculture. Mais c'est aussi chez nous, à la maison, que nos poumons sont soumis à rude épreuve à cause d'une très mauvaise habitude, celle d'allumer des bougies parfumées ou des encens qui, eux aussi, émettent de nombreux polluants. Marion Aquilina.
C'est comme les bombes aérosols qui émettent des polluants dans l'air qu'on respire. Pourtant, Inès, comme beaucoup d'autres, utilise de l'encens toutes les semaines.
Déjà, pour éviter d'ouvrir tout le temps les fenêtres, parce que surtout en ce moment, il fait un peu froid. Donc on met un encens, ça parfume bien la pièce, c'est agréable pour tout le monde. Donc.
Même si l'odeur est agréable, il faut impérativement ouvrir les fenêtres. Un réflexe qu'a pris Angéline, elle vit à Paris.
Alors les bougies, j'en mets tous les jours dans ma chambre. L'encens, un peu moins parce que ça pollue un peu l'air. C'est pas très bon la fumée. J'ouvre ma fenêtre tout le temps. Mais après, l'odeur, du coup, elle reste pas trop.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies recommande de brûler avec modération de l'encens et des bougies parfumées pour des raisons de santé. Nadia Herbelot est chef du service qualité de l'air.
En fait, les gens utilisent souvent ces produits pour masquer des odeurs ou pour créer une bonne odeur ou même parfois pour améliorer la qualité de leur air intérieur. En fait, il n'en est rien. Ces produits émettent un certain nombre de polluants, en particulier les encens émettent énormément de benzène qui est un composé cancérogène. Et donc l'utilisation de ces produits va conduire à des concentrations qui peuvent être nocives pour la santé, une augmentation du risque de cancer ou de maladie cardiovasculaire à long terme.
Pour l'instant, sur les étiquettes des produits, rien n'est écrit. À partir de 2019, on pourra lire la mention « aéré après utilisation ».
Il a plutôt porté chance aux Français jusqu'ici. C'est le stade Pierre-Mauroy de Lille qui accueillera la finale de la Coupe Davis de tennis entre la France et la Belgique à la fin du mois de novembre. C'est dans ce même stade que les Bleus viennent de battre la Serbie le week-end dernier.
Et on termine, Marc, avec un coup de cœur.
Attention, grand film, nous dit déjà Eva Bétan. Il sort aujourd'hui sur les écrans. C'est « Faute d'amour » du réalisateur russe André Zviakintsev. L'histoire d'un couple qui se sépare, mais surtout de leur enfant qui prend cette rupture de plein fouet à ne pas rater, donc Eva Bétan.
Il n'y a pas d'image violente, ce n'est pas un film d'effroi, et pourtant ce film nous saisit, nous poursuit longtemps. C'est qu'Andrei Dziagintsev est à la fois un moraliste et un très grand cinéaste. La situation de départ, banale, un couple se sépare, d'ordinaire on se dispute pour la garde des enfants. Mais là chacun a une nouvelle vie qui l'attend, et aucun ne veut d'Alyosha, leur fils 12 ans, mais n'en veut vraiment pas. Nous en sommes là, à ce stade d'égoïsme, d'indifférence, Andrei Dziagintsev.
Je ne fais que témoigner d'une certaine vérité. Alors mon film est sorti en Russie, il y a certains spectateurs qui n'arrivent même pas à se lever à la fin du film. Et moi j'ai connu des spectateurs qui m'ont dit aussi qu'après le film, ils s'étaient jetés sur leur téléphone pour appeler leurs proches et essayer de leur faire passer cet amour qu'ils avaient pour eux. Donc j'ai l'impression que mon film éveille un état d'endormissement. Et si ça peut effectivement nous faire sortir d'une apathie morale et éthique, j'en suis content.
Le lendemain, Alyosha n'est plus dans sa chambre, il est parti, il a compris, ce n'est pas une fugue, c'est un départ radical. À la recherche d'Alyosha, à la recherche d'une humanité perdue, avec une mise en scène ample, avec la puissance d'un conte, dans une Russie matérialiste qui a un état défaillant, mais le film est bien sûr universel et c'est un des plus beaux films de l'année.
La Faute d'amour a reçu le prix du jury à Cannes, vous l'aurez compris, deviné à l'enthousiasme d'Eva Bétan, c'est un film France Inter. Merci Marc Fauvel, 8h16.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Marie-Pierre Planchon, ce matin, attention au brouillard.
Oui, là où le ciel est le plus dégagé, oui, il y a du soleil, oui. C'est-à-dire du département de Charleville-Mézières à Rouen, en descendant sur le Mans jusqu'à Nantes de Troyes, vers la Haute-Marne, mais aussi vers Lyon et Brive. Ce matin, on a encore des grisailles qui vont s'accrocher des régions du Nord-Est en descendant vers le Massif central, mais sans précipitation. Ailleurs, vous aurez une matinée ensoleillée, même s'il fait frais en ce début de journée. 3 petits degrés dans la Creuse, 4 en Lozère, 8 à Paris, à Biarritz, mais 13 à Marseille.
Et pour le reste, retour du soleil cet après-midi.
Oui, pratiquement partout, avec quand même deux petites exceptions. Une ondée possible sur le relief vosgien et en fin d'après-midi, le ciel va se charger sur la pointe bretonne. À noter du vent dans la vallée du Rhône jusqu'à 70 km/h et dans le sud, vous aurez des températures de plus en plus estivales. Comptez 23 à Nice et Manosque, 24 à Nîmes. Sur les régions du nord, ça va remonter tout doucement. Aujourd'hui, le thermomètre indiquera 16 à Épinal, 17 à Bourg-en-Bresse, 19 à Paris et à Quimper. Une petite pointe à 20 pour Nantes et Châteauroux.
Merci Marie-Pierre.